une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Pour être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je vais vous expliquer des phénomènes qui ont été dans l'actualité très récemment, mais on l'espère, plus pour très longtemps. Non, je ne parle pas de la réforme des retraites. Aujourd'hui, on va parler de Silicon Valley, du comité de Bâle et de l'ancien incendie. Si vous avez un peu suivi l'actualité du mois de mars, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu des faillites bancaires. Aux États-Unis, la Silicon Valley Bank, qui, comme son nom l'indique, opérait pour de gros clients de la tech en Californie, a disparu le 10 mars. C'est ensuite au tour de Silvergate Bank de mettre la clé sous la porte. Et ensuite, de ce côté de l'Atlantique, Crédit Suisse a été racheté en catastrophe par UBS une semaine plus tard, sous la houlette de la Banque Centrale. Et enfin, Deutsche Bank, qui a fait vaciller BNP Paribas et Société Générale, deux grosses banques françaises. Bref, vu de loin, ça semble inquiétant.
Je te jure qu'on est dans la merde. Après, on pourra même plus aller à la piscine, tu vas voir.
Est-ce que même de grosses banques qui ont un siècle et demi d'existence et des millions de clientes et de clients peuvent disparaître du jour au lendemain? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les banques qui ont fait faillite ont disparu, mais aussi pourquoi toutes les banques sont des êtres fragiles alors qu'elles gèrent un bien public, la monnaie. Et vous allez voir que même si votre banque menace de faire faillite, si ça se trouve, ce n'est pas si grave. Alors, votre banque va-t-elle faire faillite? D'abord, regardons ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Son business, c'était d'accueillir les dépôts des entreprises de la tech. Et ces 15 dernières années, justement, dans la Silicon Valley, tout allait bien. La croissance de ces entreprises leur permettait de lever beaucoup de fonds, avec des perspectives de profit importantes. Je vous renvoie sur ce point à l'épisode récent d'Adrien, « Pourquoi certaines boîtes valent-elles 3 milliards ?» Mais il y avait une condition nécessaire pour que toute la Silicon Valley soit inondée de cash, la faiblesse des taux d'intérêt. Et justement, depuis 2008, les taux d'intérêt sont restés super faibles, parfois à des niveaux proches de zéro, voire moins, pour les taux directeurs de la Fed, la Banque Centrale Américaine. L'objectif était de relancer l'investissement et même l'inflation. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 4 ans, le problème des pays riches, c'était une inflation trop faible. Bref, si emprunter de l'argent ne coûte pratiquement rien, pas étonnant que les investisseurs de la Silicon Valley aient les poches pleines de cash et qu'ils en laissent une partie chez SVB. Que fait la banque de tous ces argent frais? En théorie, elle l'investit dans une diversité de placements qui sont plus ou moins risqués. On va les appeler des actifs. Or, cette banque a très très mal géré ses actifs, en achetant beaucoup d'obligations, des titres de dette, de long terme. Petite parenthèse technique. Une obligation, c'est un titre de dette négociable. Si elle vaut 100$ quand vous l'achetez et qu'elle rapporte 3$ par an, alors elle a un taux d'intérêt de 3%. Mais si les taux d'intérêt d'autres actifs deviennent plus élevés, à 4% par exemple, alors votre obligation ne rapporte plus autant qu'avant, ce qui peut vous conduire à la revendre. Problème, si d'autres ont la même idée que vous, vous la revendez finalement moins chère. Donc, la valeur de marché de votre actif a baissé. Tant que vous ne la revendez pas, tout va bien. Et d'un point de vue comptable, vous n'avez pour l'instant rien perdu. Mais il y a une perte non réalisée, qui peut faire craindre que vous n'ayez rien dans les poches au moment où vous cherchez à vendre ce titre. C'est exactement ce qui s'est passé pour SVB. La valeur de son actif a baissé parce que les taux d'intérêt ont augmenté brutalement. Mais en fait, c'était très prévisible.
Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr !
Ça fait plus d'un an que la Fed affirme qu'elle continuera d'augmenter ses taux tant que l'inflation ne baisse pas. Donc la baisse de la valeur de l'actif de SVB, c'était son problème. Au passage, en quoi ça pose problème que le total des actifs gérés par une banque diminue? Eh bien parce qu'une banque prête toujours beaucoup plus d'argent que ce qu'elle a dans ses caisses. Oui, oui, vous avez bien entendu, le fonctionnement normal d'une banque, c'est qu'elle accorde du crédit à des gens qui en ont besoin, des particuliers ou des entreprises et même des administrations, mais il n'y a qu'une petite partie de ces crédits à son actif qui sont couverts par des dépôts à son passif. Pire encore, une banque prête généralement de l'argent à long terme alors qu'elle reçoit des dépôts à court terme. Pensez au moment où votre banque reçoit un virement de votre employeur qui correspond à votre salaire si c'est le cas. Et donc, il peut se produire des phénomènes de panique. C'est vieux comme le métier de banquier. Des tas de clients inquiets de ce que deviennent leurs économies, ou simplement leurs comptes courants, se pointent le même jour au guichet, la banque fait ce qu'elle peut pour leur donner du cash, mais rapidement, elle est à court d'argent, même si elle racle les fonds de tiroir.
Encore plus, évidemment, dans le cas des banques régionales américaines qui ont fait faillite, parce que comme celles-ci étaient spécialisées dans des secteurs qui ont connu un plein essor il y a quelques années, et qui au contraire aujourd'hui sont en difficulté, eh bien les clients de cette banque, les clients professionnels de ce type de banque ont eu besoin en fait de puiser dans leur cash. Donc il y a eu une érosion des dépôts encore plus forte. C'est ajouté à cela dans le cas de ces banques le fait que il y avait beaucoup de clients professionnels beaucoup de clients professionnels qui avaient des dépôts qui dépassaient très largement le plafond de la garantie des dépôts. Et donc ça peut vraiment engendrer des paniques nouvelle génération, parce que là, on n'a plus affaire à des petits déposants qui sont rassurés par une garantie des dépôts de 250 000 dollars. On a affaire à des clients de professionnels qui peuvent se dire assez rapidement, si je laisse mes dépôts ici alors que les difficultés commencent à se faire sentir, je vais les perdre. Et donc là, ça devient autoréalisateur.
Je vous présente Jezabel Coupet-Souberan, maîtresse de conférences à Paris 1 et sans doute l'une des meilleures spécialistes d'économie bancaire en France. La garantie des dépôts à laquelle elle fait référence ici, c'est une assurance introduite en 1932 aux États-Unis et qui existe encore. Si vous avez moins de 250 000 dollars sur un compte bancaire, c'est l'État fédéral qui vous rembourse si votre banque coule.
Oh, c'est ça, connaissez-vous vous-même, ça vaut mieux. On dirait qu'ils savent à qui ils ont affaire quand même, hein.
Oui, oui, ce sont de vieilles connaissances.
Et comme elle le dit, les paniques bancaires peuvent s'auto-renforcer, à partir de pas grand-chose. Il suffit d'un petit nombre de clients qui s'inquiètent à voix haute de la fragilité de leur banque.
J'aime pas trop beaucoup ça.
Et d'autres seront tentés de s'inquiéter eux aussi. Et hop, ils se ruinent tous, alors qu'ils auraient pu ne pas le faire.
Bien joué, les gars.
Pour la petite histoire, le dernier prix Nobel d'économie a récompensé deux économistes qui ont justement fait un modèle de panique bancaire autoréalisatrice en 1983. Une période que l'on pensait lointaine, mais pas tant que ça visiblement. À ce stade, vous vous demandez peut-être si votre banquier a lui aussi l'habitude de vous prêter de l'argent qu'il n'a pas, en comptant un jour être rémunéré par d'autres actifs. Et oui, vous avez raison. Est-ce que c'est inquiétant ? Tout dépend si votre banquier est un mégalomane incapable de gérer correctement son établissement, comme l'ex-PDG de SVB qui avait visiblement quelques leçons à recevoir. Mais après tout, Crédit Suisse ou même Deutsche Bank, ce sont des très gros établissements bancaires qu'on n'accusait pas d'amateurisme. Comment se fait-il qu'eux aussi aient bu la tasse ?
Quoi de commun en fait entre ces banques ? Sans doute le fait d'être toutes dans le retournement du cycle financier. Et moi j'adhère beaucoup plus à cette thèse-là qu'à la thèse consistant à pointer des problèmes particuliers qui expliqueraient en fait le défaut de ces banques. Bon, c'est pas complètement faux hein, de dire que les petites banques régionales ont souffert de leur manque de diversification, qu'elles n'ont pas bien anticipé la hausse des taux, qu'elles n'ont pas eu des techniques de gestion de risque suffisamment élaborées. C'est pas faux, mais en fait, il y a bien, si vous voulez, un phénomène plus global qui explique les turbulences bancaires et financières actuelles. Et ce phénomène plus global, eh bien, c'est le retournement d'un cycle financier qui a été alimenté au cours des dernières décennies par la surabondance de liquidités déversées par les banques centrales, qui s'est retournée lorsque les banques centrales ont commencé à resserrer la politique monétaire pour faire face à l'inflation, sans même d'ailleurs discuter de la question de savoir si ce resserrement de la politique monétaire est adéquat ou pas pour lutter contre l'inflation.
Donc, si l'on suit Jezabel Coupet-Souberan, toutes les banques vont devoir se préparer à deux choses. Voir partir une partie de leurs clientes et clients, parce que ces derniers préfèrent acheter d'autres actifs que laisser leurs économies sur un compte bancaire. Et voir la valeur de leurs actifs décroître. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire que toutes les banques vont faire face à une crise généralisée. Attendez, pas si vite. Toutes les banques sont fragiles, dans la mesure où elles prennent sur elles le risque de ne pas être remboursées des crédits qu'elles accordent, mais aussi le risque que leur portefeuille de titres perde de sa valeur, sans compter un retrait massif et soudain de dépôts. Historiquement, on a trouvé plusieurs parades pour faire face à cette fragilité constitutive. En fait, pendant plusieurs siècles, on les a juste laissés faire faillite quand il y avait une crise.
Démerdez-vous !
Mais de nos jours, on ne peut pas se contenter de ça. Une banque qui fait faillite, c'est non seulement des banquiers au chômage, et c'est déjà très triste, mais ce sont surtout des entreprises incapables de payer leurs fournisseurs et leurs salariés, des gens dont la carte bleue est vide, des épargnantes ruinées, etc. Et plus la banque en question est grosse, plus les conséquences sont dramatiques pour l'ensemble de l'économie. Donc il faut éviter que les banques fassent faillite. Par exemple, en faisant en sorte qu'elles aient des réserves de capitaux propres solides. Pas de l'argent qui leur a été prêté et qu'elles doivent rembourser un jour. Pas même de la monnaie apportée par leur banque centrale. Les capitaux propres, ou fonds propres, d'une banque, comme ceux d'une entreprise en général, c'est ceux qu'apportent ses actionnaires. Ça tombe bien, depuis les années 80, les banques centrales ont réussi à faire adopter aux banques privées ce qu'on appelle des ratios de fonds propres. Si par exemple, votre actif se monte au total à 100 milliards d'euros, il vous faut au moins 8 milliards d'euros de fonds propres avec un ratio de 8%. Ça s'est fait par une série de réunions au siège de la Banque des règlements internationaux à Bâle, d'où le nom des accords de Bâle 1, 2 et 3 pour les différentes générations. Jezabel Coupet-Souberan.
Donc si on regarde les données du comité de Bâle, eh bien, en effet, sur la période récente, si je prends ces grandes banques européennes, elles ont 20% de fonds propres rapportés aux actifs pondérés par les risques. Donc là, on se dit, c'est bien, elles ont effectivement une grosse capacité d'absorption de pertes, parce que c'est à ça que servent les fonds propres, à absorber des pertes. Si en fait, on regarde leur capacité d'absorption de pertes avec un autre ratio de fonds propres qui est celui que privilégie le superviseur américain, un ratio de levier, ratio de fonds propres rapporté au total des actifs. Alors c'est certes une mesure beaucoup plus fruste puisqu'elle n'est pas ajustée au risque, mais c'est une mesure qui est moins manipulable par les établissements. Ils n'ont pas besoin là d'utiliser des modèles d'évaluation de risque pour calculer l'exposition au risque, donc moins de manipulation possible. Quand on regarde la capacité de résistance de nos grandes banques européennes avec cet instrument-là, la capacité de résistance, elle s'élève à 5-6%. D'accord ? Donc là, si vous voulez, ça peut être plus inquiétant.
Ce qui explique ici Gisabelle Coupet-Souberan, c'est que les superviseurs européens, la BCE et l'Eurosystème, pour faire simple, ont décidé de faire confiance aux banques pour mesurer leur degré d'exposition au risque. Si par exemple, vous avez dans votre actif des titres super risqués, alors il vous faut des fonds propres. Mais pas beaucoup si ça ne représente qu'un pour cent de votre actif, et que leur probabilité de défaut n'est que de 10%. Par définition, votre banque sait mieux que vous, que la BCE et que quiconque au bout du compte. Quel genre de risque elle prend? Surtout si elle en fait correctement la comptabilité et qu'elle surveille les marchés auxquels elle s'expose. Mais c'est son boulot de le faire. Et les banques centrales surveillent aussi cette partie de leur boulot. Mais admettons que votre banque soit peuplée de gens pas très doués, persuadés d'avoir découvert le saint graal de la finance en achetant des cryptoactifs, et qui mise tout sur la dette publique vénézuélienne comme actif de long terme. Admettons même qu'elle soit prise dans plusieurs scandales de corruption et qu'elle soit suspectée de malversation. Allez, admettons enfin qu'elle fasse l'objet d'une panique bancaire. Vous allez perdre toutes vos économies ? Attendez, pas si vite.
Alors, au fond, il ne s'agit pas non plus d'affoler tout le monde, parce que qu'est-ce qui se passerait, en fait, si une de ces grandes banques européennes connaissait des difficultés ? Eh bien, aussitôt, en fait, la Banque Centrale Européenne, les États concernés se mobiliseraient, viendraient au chevet de ce grand établissement et viendraient le sauver. Mais vous voyez, c'est un peu ce qu'il y a de paradoxal, je dirais, dans la période actuelle, c'est que nos dépôts sont presque mieux protégés dans les établissements les moins vertueux. D'accord ? Et ce que l'on constate aussi, c'est que, en fait, il y a toujours de quoi sauver le capitalisme financier en perdition, toujours de quoi sauver d'éventuelles banques en difficulté.
Les anciens comme moi se souviennent qu'en 2008, on a laissé Lehman Brothers faire faillite, mais que les plus grandes banques américaines ont été renflouées, dont la fameuse Goldman Sachs. 750 milliards de dollars d'argent public ont été trouvés en quelques jours. Idem en Irlande, qui a creusé son déficit public de 32% en un an pour renflouer ses deux banques en difficulté. Et on pourrait encore multiplier les exemples. L'une des fonctions des banques centrales, mais aussi des États, c'est d'agir en tant que pompier. On appelle ça un prêteur en dernier ressort. Quand les marchés financiers commencent à paniquer, on sort la lance à incendie. La banque centrale les arrose de monnaie. On n'appelle pas ça pour rien des apports de liquidité.
Regarde, ça brûle.
Oh là là, mais ça brûle là. Il faut aller chercher les pompiers.
Et quand il le faut, les États mettent la main à la poche pour apporter des capitaux à des banques qui en ont besoin. Et où les États trouvent-ils cet argent ? Eh bien, dans leurs recettes fiscales, s'ils en ont, et sinon en s'embêtant. Mais c'est ça ou un effondrement généralisé du système des paiements. Socialisation des pertes, privatisation des bénéfices. Je vous le confirme, il s'agit bien d'une économie capitaliste. Un détail à ne pas oublier quand même. Dans la zone euro aussi, il y a une garantie des dépôts. Elle est de 100 000 euros. Mais si une grosse banque, dont une bonne partie des clients possède plus de 100 000 euros chacun, faisait faillite, on verrait probablement cette garantie s'étendre au-delà. Comme aux États-Unis il y a un mois. En résumé, les banques centrales essayent de mettre en place des règles de bonne conduite pour les banques privées, mais celles-ci savent par avance qu'elles ont une grande chance d'être sauvées si elles font n'importe quoi. On appelle ça un aléa moral, le même genre de phénomène qui vous pousse à conduire un peu moins bien si votre voiture est assurée. Et c'est même pire du côté du secteur bancaire. Ça pourrait conduire à ce qu'on laisse des petites banques jugées sans importance faire faillite, alors que l'on sauve les acteurs systémiques, ce que l'on dit en anglais « too big to fail ».
Quand des banques sont assurées de cette garantie de sauvetage, eh bien, elles prennent plus de risques. Alors, peut-être que, effectivement, les autorités pourraient essayer de vouloir montrer de manière un peu artificielle, donc elles n'encouragent pas l'aléa moral en laissant tomber des banques plus petites qui seront pas finalement moins vertueuses que les plus grandes, mais qui pâtiront là simplement du fait qu'elles ne seront pas considérées comme systémiques, donc comme dangereuses pour l'ensemble du système, et auquel cas, eh bien, on les laissera tomber. Donc oui, ça, c'est pas quelque chose de complètement improbable.
Alors, est-ce que vous devez craindre la faillite de votre banque ? Paradoxalement, plus elle est petite, moins vous serez protégé. Je sais que tout ça peut sembler à la fois scandaleux et cynique.
Je suis choqué.
On laisse les banquiers faire n'importe quoi avec d'autre argent et on leur vient en aide quand c'est vraiment la crise. La bonne nouvelle, c'est que les banques centrales ont gagné ces dernières années une capacité d'action dont elles étaient encore dépourvues dans les années 2000. La faillite de SVB, ça s'est joué en quelques jours à peine, accélérée par la circulation des rumeurs sur les réseaux sociaux. Et pourtant, dès la semaine suivante, la Fed et le secrétariat au Trésor ont réussi à juguler la crise, notamment en étendant la garantie des dépôts au-delà de 250 000 dollars. Et oui, ça veut dire que les riches investisseurs de la Silicon Valley n'ont pas pris leurs pertes, mais ont été largement remboursés de leurs dépôts. La mauvaise nouvelle, c'est que le secteur bancaire reste concentré, très capable de continuer à grossir et toujours aussi risqué.
Alors, les banques européennes ont peut-être un petit peu moins grossi que les banques américaines ou les banques asiatiques depuis la crise financière de 2007-2008. En moyenne, leur taille ne s'est pas réduite, d'accord ? Si on regarde les chiffres du Financial Stability Board sur les montants d'actifs au bilan du secteur bancaire, eh bien, ce qu'on voit pour le secteur bancaire européen, c'est que ça a augmenté de 25% en moyenne. Alors certes, c'est moins que pour les banques américaines qui, elles, ont doublé, d'accord ? Ont doublé de taille. D'ailleurs, dans le monde entier, et ça vient aussi des évolutions en Asie, le secteur bancaire a doublé de taille depuis 2007-2008, d'accord ? Donc c'est, si vous voulez, ça veut dire vraiment que on n'a pas du tout cherché à la fois tempérer le cycle financier et tempérer la croissance du secteur bancaire qui a été largement portée évidemment par la croissance des établissements les plus déjà les plus gros. Donc les plus gros sont devenus encore plus gros. C'est ça, je pense, vraiment le problème d'aléa morale dont on doit se soucier.
Face à la croissance et à la concentration des banques, les superviseurs exigent de plus en plus des coussins de sécurité de la part de celles dont la faillite serait insupportable, les fameuses banques systémiques. Est-ce que ça suffit ? Là encore, d'après Gisabelle Coupet-Soubéran, on pourrait faire plus et mieux.
Pour les établissements systémiques, à partir notamment de la liste établie chaque année par le Financial Stability Board. Mais là encore, si vous voulez, c'est pas mal du trompe-l'œil, cette liste. Alors, je dis pas qu'il ne la faut pas. On a besoin, évidemment, d'identifier les établissements systémiques. Mais quelle est la surcharge? Vous avez cinq catégories dans cette liste du FSB. La cinquième, donc la catégorie la plus systémique, la cinquième est vide. D'accord? Dans la quatrième catégorie, vous avez la banque américaine JP Morgan est astreinte du fait de son degré de systémicité, qui est astreinte à une surcharge de fonds propres de plus de 2,5%. Pas beaucoup. Nos grandes banques françaises, d'accord, nos fleurons nationaux, nos champions nationaux, qui sont des banques systémiques, eh bien, elles sont dans la première et deuxième catégorie. Et donc astreinte à une surcharge systémique de plus 1% ou de plus 1,5%. D'accord ? Ça fait pas beaucoup. Donc si vous ajoutez ça aux 10,5% de fonds propres qui ont été introduits dans les accords de Bâle III et qui ont rehaussé l'ancienne exigence de 8% qui prévalait dans les accords de Bâle I et de Bâle II, eh bien, ça vous mène à pas grand-chose. D'accord? Ça vous mène à 10,5, 11, 12% d'exigence de fonds propres. Alors, peut venir s'y ajouter un peu de coussin contracyclique, mais il est tellement petit et tellement peu utilisé que ça fait pas, si vous voulez, des grosses exigences de fonds propres. Et là, ce que je vous dis, c'est par rapport à des exigences de fonds propres pondérées par les risques.
Bref, les autorités en charge de la régulation sont soucieuses de ne pas freiner la croissance des banques. Et elles restent très clémentes avec elles. Une partie de l'explication, c'est la proximité, même en termes de carrière, entre les dirigeants des grandes banques et celles et ceux qui les surveillent. Vous vous souvenez peut-être que Mario Draghi était un ancien de Goldman Sachs, par exemple. Mais il y en a quantité d'autres. Et ça peut conduire à une sorte de myopie. Les banquiers centraux voient assez bien la manière dont telle ou telle banque conduit son activité ici et maintenant, mais ont du mal à prendre en compte des risques de long terme et surtout des incertitudes majeures telles que celles qu'on a connues en 2008 avec un effondrement du crédit et des mesures d'urgence en cascade. Alors, conclusion, est-ce que votre banque va faire faillite ?
Oui, peut-être.
Il y a des risques qui s'accumulent sur le secteur bancaire européen, à commencer par la remontée des taux d'intérêt qui va se poursuivre encore au moins quelques mois. Donc, tous les établissements bancaires doivent revoir leur stratégie, diversifier, conquérir de nouveaux clients et surtout ne pas être sourds à ce qu'on leur demande comme garantie de fonds propres. C'est très technique et c'est toujours difficile de dire quelle quantité de fonds propres vous permet d'échapper à coup sûr à une panique bancaire. À vrai dire, on n'y parvient jamais tout à fait. Mais les banques européennes ont sans doute encore des progrès à faire en la matière, à commencer par l'application des accords de Bâle de troisième génération qui n'est pas encore pleinement faite. Mais en cas de crise, ce qui est sûr, c'est que les banques centrales déverseront de la monnaie sur les banques qui en ont besoin. Votre banque a peu peu de chances de faire faillite, sauf si elle est vraiment petite et mal gérée. C'est peut-être ça la conclusion la plus alarmante. Les banques centrales savent très bien agir dans l'urgence pour éteindre des incendies, mais en maintenant des taux très bas pendant une quinzaine d'années, elles ont contribué à faire pousser les arbres qui prennent feu ensuite.
Putain, c'est bien dit.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jolin. Produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice artistique Aurore Mailleux. Chargée de production Mathilde Jolin, avec l'aide de Neyla Hakmi.